RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous sommes avec notre invité, le pasteur Alain Patrick. Bonjour, tu vas bien?
Bonjour Annabelle, je vais bien.
Oui. Bonjour pasteur.
Super.
Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Il est folé, Annabelle. Salut.
Ah, quelle salutation! Mais bon, on sait que tu vas te réveiller dans
bonjour.
L'émission.
Bonjour!
Voilà. Les gens se disent, mais est-ce qu'il a été maltraité dans l'émission Parole de femme?
Non, il est subjugué de 20 ans de sagesse.
C'est ça. Voilà. Donc tu es là pour nous bénir toute cette semaine, amen. Pour encourager les femmes à entrer dans leur destinée, à éviter les pièges, amen. Et puis à comprendre aussi leur identité en tant que femme, en prenant modèle sur des femmes qui ont déjà vécu et qui sont mortes.
Amen.
Mais on peut voir que leur vie, leur histoire, la manière dont Dieu les a utilisés, c'est encore actuel pour nous, femmes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de Déborah.
Déborah, la femme de Lapidote, dans Juges chapitre 4. C'est une dame, en fait, qui va se positionner à un moment où le peuple d'Israël aura besoin d'un leadership. Et ce qui est bien avec Déborah, c'est que elle s'adresse quand même aux hommes. Et elle dit, mais prenez le leadership, parce que si je vais en guerre, là, et que je mène la bataille pour l'Éternel et que je gagne, la gloire reviendra à une femme. Et à cette époque-là, la femme n'avait pas la capacité juridique. Très souvent, lorsqu'on lit certains passages de l'Ancien Testament, on ne se met pas dans le contexte de l'époque. Mon professeur en histoire de droit disait souvent, vous allez trouver bizarre un peu l'attitude des gens du 16e, du 17e siècle, mais faites l'effort de vous projeter à cette époque-là. Ce qui est évident pour nous aujourd'hui n'était pas évident pour eux. Et à l'époque, la femme n'avait pas la capacité juridique, la femme ne pouvait pas faire certaines choses et avoir certaines initiatives. Ce qui est bien, c'est que Dieu va choisir Déborah. Dieu va choisir Déborah dans cette période-là. Aujourd'hui, c'est un peu accepté déjà dans les églises, les femmes ont la place, dans la société, les femmes ont la place, mais à l'époque, que ce soit dans la société, que ce soit parfois même dans les synagogues, les femmes étaient reléguées au second plan. Et là, voici Dieu qui choisit une dame qui humblement se dit que mais il peut y avoir un homme pour faire ça, mais il n'y avait pas d'homme. Oui, à cette époque, il n'y avait pas d'homme qui pouvait le faire. Elle va prendre le leadership, elle va mener une guerre qu'elle va gagner. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que pour moi, c'est comme une claque pour les hommes qui n'estimaient pas les femmes à l'époque et qui pensaient que les femmes ne pouvaient pas faire de telles choses. Moi, personnellement, quand je vois l'histoire de Déborah, je suis édifié. Je suis heureux, je suis content.
Mais tu vois,
parce que en fait, Annabelle, je crois vraiment au ministère des femmes. Sérieusement, je crois que les femmes ont une place dans l'église locale et je crois vraiment que l'onction n'a pas de sexe.
Amen.
Mais voilà. Tu vois, c'est encourageant pour les femmes, l'histoire de Déborah. Mais je pense que c'est aussi l'histoire d'un homme qui a su reconnaître le leadership d'une femme. Barak faisait confiance à Déborah. Il a dit, on va y aller si toi tu viens.
Non, elle s'appelait Michel.
Ouais, j'aime mieux. Ouais, Jean-Pierre
Aurélie,
était...
c'est quoi la blague en Barack Obama hein.
Comment... N'explique pas tes blagues. Je sens mal.
Mais oui, on voit que Barack accepté.
Il a reconnu le leadership d'une femme. Et c'est pour ça que je vois l'histoire d'une femme, mais je vois aussi l'histoire d'un homme qui reconnaît le leadership d'une femme. Et comme tu dis, l'onction n'a pas de sexe. Et quand Dieu a appelé une femme... il y a des hommes qui sont appelés à suivre et tout comme lorsqu'un homme est appelé de Dieu, il y a des femmes qui suivent et dans le cas inverse, ça pose jamais de problème, on n'est jamais trop étonné que des femmes puissent suivre un ministère et servir sous un ministère, ça pose jamais trop de problèmes parce que de toute façon, on va en parler dans l'église locale, si les femmes ne s'investissent pas, ça irait mal qu'il y a quand même pas mal de femmes dans les églises locales. Et toi, tu as beaucoup d'églises
oui, oui.
Et je pense que tu as pu compter sur beaucoup de
Les femmes sont très femmes. Impliquées dans mes églises. Mm-hmm. Et d'ailleurs, l'église de Paris est dirigée par mon épouse. ACE Paris est dirigée par mon épouse avec deux pasteurs associés femmes. Le pasteur Paulette, pasteur Grasse, et puis pasteur ici, c'est des femmes. Et elles dirigent bien l'église, parfaitement l'église. Voilà, la grâce de Dieu est sur eux. Et moi, je crois sincèrement que lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, en fait, il n'est pas descendu. Il a dit, ah, c'est une femme. Non, il faut aller chez Pierre. Il descend dans le Saint-Esprit, il est descendu sur tout le monde. Et je pense que l'une des particularités du Saint-Esprit, c'est de nous guider, nous amener à nous affirmer dans notre destinée. Et je pense que les femmes aussi peuvent s'affirmer.
Mm-hmm. Exactement. Dieu a formé des projets de paix et des projets de bonheur.
Ouais.
Mais il a formé aussi bien sur les hommes que sur les femmes.
Sur les femmes, amen.
Et c'est vraiment une force, en fait, les femmes dans l'Église. Parce que, comme Annabelle le disait, il y a tellement de pôles qui sont occupés dans l'église par des femmes. Mm-hmm. Et même lorsque, on n'est pas ici en train de dire que les hommes ou bien non, mais même lorsqu'il y a des responsables hommes, il y a toujours besoin de ce regard-là. Parce que c'est un regard différent, tout simplement. Ouais. Et c'est Dieu qui a permis que les choses soient ainsi. Et dans les églises, dans le passé, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, dans l'église, les femmes ont beaucoup de place. Mmh. Elles ont beaucoup de place et elles savent bien faire les choses. Mmh. C'est aussi important de le dire. Pas juste le côté émotionnel qu'on reproche aux femmes. C'est bien aussi pour faire les choses dans l'église parce qu'on en a besoin. Amen. Et l'église a besoin de cela dans son ensemble, dans sa diversité, mais pour pouvoir aller dans les plans de Dieu. Et une femme qui sait ça, et qui se lève et qui marche conformément au plan de Dieu, mais c'est une femme, c'est une géante quoi, face à l'ennemi, face à l'adversaire. Elle sait se positionner exactement comme Déborah s'est positionnée face aux adversaires du peuple.
Mais là, attention aussi, quand on dit la femme a une place dans l'Église, et ça c'est vrai, et puis c'est super qu'aujourd'hui dans beaucoup d'églises, la femme a une place, mais quelle place aussi? C'est ça la chose. Est-ce que c'est la place que l'homme lui fait? Je te laisse un petit coin. Ou alors, là où tu es pratique. Ou alors, est-ce que c'est la place que Dieu veut donner aux femmes? Est-ce que ce sont des places qui répondent aux appels? Est-ce que ce sont des places qui sont conformes à la volonté de Dieu? Et je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être plus confronté à ça parce que on est quand même aujourd'hui dans une société où, en tout cas en Occident, où les femmes ont le droit de parole, etc. Ouais. Mais dans l'Église, est-ce que les femmes aujourd'hui occupent réellement les places qu'elles devraient occuper? Est-ce qu'elles font vraiment, est-ce qu'elles ont la liberté de vraiment remplir et répondre à l'appel de Dieu?
On occupe un poste dans l'Église en fonction de l'appel, la grâce, l'onction et les talents qu'on a. Si les talents, la grâce qu'il y a sur ta vie, l'onction qu'il y a sur ta vie répond aux besoins d'un poste à l'église, on te place là, que tu sois un homme ou une femme. Si c'est une femme, on te place là. Si parmi 10 hommes, il y a une femme qui a la grâce dans la prédication et l'enseignement, autant placer la femme parce que c'est quelque chose de spirituel. Moi, j'y crois. Moi, je crois que la femme peut enseigner dans l'assemblée. On va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il peut être long. Moi, je crois sincèrement que s'il y a cette grâce spirituelle, elle peut être enseignante dans l'église. Elle peut être prédicatrice dans l'église. Il y a certaines églises qui pensent que la femme, si elle a quelque chose à faire dans l'église, c'est s'occuper des enfants à l'école du dimanche, ou je sais trop quoi, mais je pense que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des femmes qui sont ouintes, qui ont une grâce particulière et qui sont même parfois plus graciées, si ça se dit, que certains hommes. Bon, gracier, c'est les prisonnières, c'est ça?
Certaines femmes ont besoin d'être graciées.
Mais ce serait se priver d'un don.
Ouais. Non,
et c'est... des capacités que Dieu a mis dans l'Église.
C'est ça, je pense qu'il faut toujours regarder, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avancement du royaume et l'éducation du corps de Christ dans l'Église?
Amen.
C'est pour ça que Dieu élève des serviteurs, c'est pour ça que Dieu a donné ses dons. Donc, et si, comme tu dis, pasteur Alain, que la grâce est tombée vraiment sur une femme d'avoir reçu plein de choses, eh bien, il faut savoir discerner qu'est-ce que Dieu a donné et de relâcher les dons. Et je pense vraiment, c'est toujours le but principal, est-ce que l'Église est édifiée? Et je pense que si on retient, eh bien, c'est à la perte de l'Église, c'est à la perte du royaume de Dieu. Je pense vraiment aussi que les femmes ont quelque chose, des fois, un complément que l'homme n'a pas. On a été créés différemment avec... Je crois que les femmes ont reçu... souvent, les femmes ont beaucoup de discernement. Ils ont une sensibilité que, des fois, le côté de l'homme n'a pas. Et encore une fois, c'est pas pour dénigrer ou enlever quelque chose à l'homme, parce que l'homme a ses forces. Mais la femme a un côté qui est complètement différent de l'homme et qui complète, en fait. Et je pense qu'il amène l'Église à une... il y a une complémentarité, mais ça complète l'Église et l'œuvre de Dieu. Donc moi, je le vois même dans mon couple, comment on gère l'Église. Bien, il y a des choses que moi je vois que mon mari ne verra jamais. Et des fois, il s'irrite parce que je suis au détail, mais j'ai dit, tu vois, des fois, c'est pratique d'être au détail. Hein? Parce que les petits détails, des fois, ça fait ou ça défait un événement. Ou ça fait ou ça défait quelque chose. Donc, je rends gloire à Dieu pour
Amen. Quand on parle de la position de la femme dans l'Église et du leadership de la femme, il faut quand même nuancer parce que il y a aussi la position de la femme dans le foyer. C'est important de pouvoir voir ce que la parole de Dieu dit. J'ai un couple dans mon église, la femme, elle est pasteur associée auprès du pasteur Paulette, et son époux est aussi pasteur, mais un grade moindre. Et donc, à l'église, c'est la femme, le leader du mari, et je dis souvent qu'à la maison, attention, l'homme reste le chef du foyer. Et c'est important que à la maison, l'homme ne dise pas, ben tiens, c'est toi le responsable à l'église, donc ça veut dire que à la maison aussi, tu es le responsable. Et là, on va pleinement toucher le cas où, dans un couple où le mari est immature. Le mari est immature, donc il n'arrive pas à se positionner en tant que leader pour pouvoir diriger son foyer. Qu'est-ce que la femme doit faire dans ce cas? La femme doit aider le mari à pouvoir développer son leadership et à pouvoir prendre sa position. Pendant un moment, Dieu va l'aider. Moi, je crois sincèrement que être un bon mari, c'est une onction, une grâce. Et Dieu peut aider ces maris-là qui ne prennent pas leur place dans le couple à pouvoir prendre leur place. Mais la femme doit aider le mari, pousser le mari à prendre ses responsabilités dans le couple. Maintenant, quand on arrive dans le cadre de l'Église, ça c'est autre chose. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment Dieu qui choisit, et puis c'est le pasteur aussi qui décide. On peut pas dire, ben tiens, comme c'est le mari, on va le placer forcément dans un grade plus élevé. Et là maintenant, c'est l'apôtre qui parle. Ah, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais bon, ça va. Je pensais que je n'allais pas pouvoir le faire, mais bon, je l'ai fait. En fait, on va pas dire, moi en tant qu'apôtre, je vais pas raisonner comme ceci en disant non, comme le mari c'est le chef du foyer, nous voilà à l'église, il faut forcément que le mari ait un grade plus élevé que la femme. Non, ce sont des choses spirituelles là. Là, on parle d'onction, on parle de grâce. À partir de ce moment-là, on peut dire il n'y a plus ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est important de pouvoir nuancer ça, parce que souvent, quand j'ai ce débat du ministère de la femme dans mon église, il y a des hommes qui se posent des questions, ou des femmes même qui se posent des questions, et disent « oui, mais à la maison, que se passe-t-il ? Parce que ma femme, elle prend vraiment les devants, elle a un fort caractère, elle est vraiment leader, elle est… voilà, et c'est important que l'homme puisse prendre sa position à la maison, mais à l'église… C'est important que la femme fasse ce que Dieu l'a appelée à faire, même si c'est un grade qui est moins élevé que celui de l'homme. C'est une question de grâce de Dieu. Et à plusieurs reprises, quand on parle de Priscille et Aquilas, très souvent, une seule fois, on voit Aquilas et Priscille, mais toutes les autres fois, c'est toujours Priscille et Aquilas.
C'est Priscille qui avait dans le couple, c'est elle qui était l'enseignante, hein, c'était quelqu'un d'extrêmement instruit. Et même certains historiens disent que l'Épître aux Hébreux aurait possiblement été écrite par Priscille. Donc c'est tout un débat, mais il y a quand même de fortes... Il y a vraiment des faisceaux concrets. En tout cas, c'était pas le thème de l'émission, mais je veux juste...
Ce sera intéressant.
C'est intéressant.
Tu as piqué ma curiosité.
Mais j'avoue que c'est assez convaincant, les éléments historiques et littéraires qu'il y a pour étayer ça. Mais je voudrais revenir à Déborah. Souvent, ce qui a fait peur dans les églises pour laisser de la place au leadership féminin, c'était qu'on pensait que les femmes allaient prendre la place des hommes. J'allais dire, le monde nous a joué un sale tour, parce que dans le monde, la libération de la femme a fait peur dans l'église. Et beaucoup ont dit, on veut pas de ça dans les églises. Mmh. Et ça a été un énorme frein et ça nous a énormément desservis. Mmh. Et il y a même eu un recul. J'avais lu récemment dans les conventions pentecôtistes du début du XXe siècle, il y avait autant de femmes que d'hommes dans les conventions pastorales du début du siècle. Mmh. Donc au tout début du pentecôtisme. Et dans les années 30, la proportion s'est complètement inversée et les femmes ont quasiment disparu de la scène. Et c'était très, très frappant parce que quand l'esprit s'est répandu, comme au jour de la Pentecôte, il s'est répandu sur les hommes et les femmes. Mmh. Et quand l'esprit s'est répandu au début du XXe siècle, là, on sait qu'avant 1920, il y a eu une trentaine de réveils puissants dans le monde de la Pentecôte. Et il y avait autant d'hommes que de femmes. Et le fruit était là, l'onction était là et on se posait pas la question de savoir si c'était sa place ou pas. L'Esprit de Dieu était sur certaines femmes et c'était une évidence que c'était leur place. Elles n'étaient pas dans une position d'usurpation. Mm. Je voudrais revenir à Déborah. Elle s'est levée comme une mère en Israël. Amen. Elle ne s'est pas levée comme un père. Amen. Elle n'a pas pris les culottes d'homme pour dire maintenant je me positionne en père. Mm. Elle s'est levée comme une mère. Amen. Et je pense que ce qui a beaucoup manqué à l'Église contemporaine, c'est d'avoir des mères qui se lèvent dans l'Église. Amen. Parce que sous prétexte d'être tellement plus pharisien que les pharisiens et vouloir absolument appliquer à la lettre la femme n'enseignera pas, je ne permettrai pas à la femme d'enseigner, on s'est privé d'une richesse énorme pour les Églises. Amen. Et toutes les craintes que le monde a fait rentrer dans l'Église, on nous ont encore plus desservis, mais les femmes ont reçu des talents, et les museler, c'est priver le peuple de Dieu de l'onction qui a été placée sur ces vies-là. Et on doit se lever comme des mères. On n'est pas là pour être des pères, les hommes ont leur place,
exactement.
Dieu les a oints, Dieu les a placés en autorité, c'est correct. Mais les femmes doivent se lever comme des mères dans l'Église, et l'Église, de maintenant, a plus que jamais besoin de mères qui sont ointes de l'Esprit de Dieu, qui connaissent les Écritures, qui sont capables de les enseigner, qui sont capables de tenir fermement, spirituellement, dans la prière. Les femmes sont des colonnes de prière. Et se priver du leadership féminin dans les Églises, c'est se priver, mais alors, de richesse et de solidité et de pérennité pour l'Église. Donc, ce qu'on veut pas de la femme, si on s'en tient au texte grec, c'est qu'elle enseigne en maître et se fasse des disciples. Et voilà, comme vous disiez, se fasse des adeptes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas apporter. Et quand l'Esprit de Dieu s'est répandu, au début du XXe siècle, certaines femmes étaient remplies. Je pense à plusieurs cas que j'ai déjà développés. Quand il y a eu le réveil à Topeka, quand il y a eu le réveil aussi à Azusa Street, mais c'était des femmes. C'était Maria Etta Woodworth, c'était Agnes Otsman, c'était des femmes comme ça, qui étaient puissamment ointes. Et personne ne se posait la question de savoir si, oh ben oui ou non, on va la laisser parler. Elle était tellement ointe que la question ne se posait pas.
Oui, l'Esprit de Dieu agissait à travers elle, on ne se pose pas de questions. Et je pense que toutes les maisons, les églises qui sont privées d'une maman spirituelle, je crois sincèrement qu'il manque un membre dans la famille. Il manque une dimension très profonde dans l'Église. Chaque Église devrait avoir vraiment sa maman spirituelle. Parce que ça apporte une richesse extraordinaire, une profondeur, une dimension que le Père ne peut pas apporter parce qu'il, de sa position.
Parce que très souvent, la famille spirituelle est un peu comparée aussi à la famille naturelle.
C'est ça.
Dans mes Églises, je sais qu'il y a des personnes qui viendront pas vers moi pour me confier certaines choses ou me demander des choses, mais au pasteur Paulette, si. Et je pense qu'effectivement, pour pouvoir approfondir ce que tu dis, c'est important. Et j'aime vraiment quand tu dis que Déborah s'est élevée comme une mère. Mm-hmm. Et elle a donné ce qu'elle pouvait donner en tant que femme dans son leadership. Et on ne vous demande pas, quand vous êtes leader à l'Église, on ne vous demande pas de devenir des hommes. On vous demande pas de devenir des hommes. On vous demande de servir Dieu tel que vous êtes, avec vos forces et vos qualités. En tant que femme, voilà, on va pas te demander. Par exemple, on dit que certaines femmes vont être émotives. On va prendre le bon côté de l'émotivité dans le sens de la sensibilité, dans le sens de la compassion. Écouter quelqu'un avec compassion et prêcher même avec beaucoup de compassion et pouvoir communiquer cette compassion-là aux gens. Donc, on ne vous demande pas de devenir des hommes, on vous demande de servir Dieu, voilà, tel que vous êtes. Et on va vous identifier à une mère et non à un père.
C'est tout. Je pense que ça s'est aussi créé parce que les femmes ont ressenti de l'opposition. Elles se sont dit, il y a de la place que pour des hommes. Si je manifeste un leadership masculin, probablement qu'on va me laisser une place. Et ça marche, c'est vrai, dans un système humain, ça marche. Parce qu'on se dit, cette femme, elle s'impose, etc. Elle a rien de féminin et ça marche dans un système humain. Et des systèmes humains que malheureusement, on va retrouver aussi dans l'Église. Mais dans le système divin, c'est sûr que comme comme vous l'avez partagé, la femme a tellement plus à donner en tant que femme.
En tant que femme,
parce que on n'a rien à donner en essayant d'être comme un homme, de penser comme un homme, de raisonner comme un homme, d'avoir les forces d'un homme. Et oui, c'est vraiment, on en parle à chaque fois, mais il y a cette complémentarité. Il y a pas, il y en a un qui est mieux, un qui est moins bien. C'est que les deux ont besoin de marcher ensemble. Et quand les deux marchent ensemble, ça crée quelque chose de puissant. Et ça crée quelque chose aussi de puissant dans l'esprit, dans le monde spirituel. Et c'est sûr que si toutes les femmes qui étaient réellement appelées du Seigneur pouvaient servir le Seigneur de façon libre, et si on leur laissait cette place, si on leur faisait confiance, si on faisait confiance au Seigneur, je pense vraiment que le royaume de Dieu n'en serait pas où il est aujourd'hui. On serait déjà beaucoup plus loin.
Exactement.
L'unité de l'Église, c'est la famille. Et d'ailleurs, dans les Écritures, on voit que Christ nous montre dans ce qu'il enseigne que l'Église est le reflet de la famille. C'est une famille. On ne peut pas concevoir une famille équilibrée sans mère. Les mères sont les piliers des familles et c'est celles qui transmettent. C'est les mères dans les familles qui transmettent les valeurs de la famille. C'est elles qui transmettent le savoir aussi. Elles apprennent le langage aux enfants. Les femmes sont des transmetteuses de connaissances. Et dans l'Église, se priver de ce talent-là que Dieu leur a donné, eh ben, je regrette, mais c'est pas faire une famille équilibrée. On doit être des mères dans les Églises, je l'ai déjà dit, mais j'insiste encore là-dessus. Parce qu'on nous a donné ce talent de transmettre. Et ce qu'on a reçu de la parole de Dieu, ben, on doit le transmettre.
Mais quand on parle de mère, je peux pas m'empêcher de
penser à... Tu te sens pas une maman.
Mais je pense aux jeunes femmes, en fait, dans l'Église, parce que on va dire ça, oui, les femmes sont des mères, mais peut-être c'est pas quelque chose qui rejoint forcément peut-être les plus jeunes. Pourtant, elles ont reçu aussi des dons, elles ont des talents que l'Église peut exploiter, elles ont l'Esprit de Dieu en elles. Donc c'est vraiment de comprendre qu'il faut se positionner là où Dieu nous place, en fait, et que c'est Dieu qui remplit. Moi, je pense que si on part avec cette idée-là, c'est que Dieu remplit. Et puis, il y a des parents aussi qui ont des enfants qui disent, mais non, toi, t'es encore jeune pour faire mais c'est aussi des dons que Dieu a pourvu, en fait, pour l'Église locale. Et Dieu nous remplit, quel que soit l'âge qu'on a au niveau de l'Église. Une jeune fille peut avoir 10 ans, elle peut avoir 12 ans, je sais pas. Mais elle aussi, dans l'Église, elle a sa place. Et sa place, ce n'est pas seulement de s'asseoir, écouter et sortir pendant la prédication. Non, mais elle a aussi un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer pour d'autres petits autour d'elle. Elle a un rôle à jouer pour, si elle a 10 ans, il y a des petites qui ont 7 ans. Elle a un rôle à jouer aussi auprès de ces personnes-là. Et on ne doit pas négliger ces choses-là dans l'Église. On doit vraiment aller chercher le potentiel. Mais pour chaque personne, petit, grand, moyen, pour chaque personne, on doit vraiment aller chercher ce potentiel.
En fait, il faut que la femme dans l'Église comprenne la notion de mère spirituelle. Et on peut devenir une mère spirituelle avant de devenir une mère naturelle. Une mère spirituelle, c'est celle qui met au monde des fils et des filles spirituels et qui s'en occupe, tel que le Seigneur le dit dans Matthieu chapitre 28, allez faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi utiliser le terme de mère spirituelle? Parce que cette femme, qu'elle soit jeune ou un peu plus âgée, qui va encadrer des disciples, devra entourer les disciples d'amour, devra enseigner ces personnes-là. Une mère naturelle, elle entoure ses enfants d'amour. Une mère naturelle, elle enseigne ses enfants. Une mère naturelle, elle donne de la nourriture aux enfants. Mais une mère spirituelle donne aussi de la nourriture spirituelle aux enfants. Donc, ça ne devrait pas vous bloquer, téléspectatrice, vous qui n'avez pas encore d'enfant naturel, et on parle de mère, vous dites non, moi je ne peux pas m'identifier à cette notion-là parce que je n'ai pas encore d'enfant, je comprends pas ce que ça veut dire. commence à faire des disciples. Tu vas vraiment comprendre. Et parfois même, en ayant fait des fils et des filles spirituelles, qu'après on a des enfants naturels, ça nous a déjà appris des choses sur l'éducation de l'être humain. Et ça devient un peu plus facile parce qu'on l'a fait dans la maison de Dieu. Comme quoi la maison de Dieu est quand même un centre d'entraînement. Hein, et des opportunités qu'on nous donne pour pouvoir devenir expert dans les choses de la vie.
Absolument. De formation.
Aurélie dit souvent c'est à l'église qu'elle a tout appris.
Mais c'est vrai.
Elle a appris à gérer ses finances, à s'habiller, à avoir des meilleures relations. Amen. C'est ça.
Gérer l'argent, acheter une maison, toutes ces choses-là, je l'ai appris à l'église parce que la vision que le pasteur avait, c'était vraiment un centre, comme on dit, de formation et de transformation. Amen. Et dans l'église, en fait, il y a toutes les valeurs que le Seigneur veut nous communiquer. Amen. Et ça concerne tous les domaines de notre vie. Et ça concerne toutes les tranches d'âge et toutes les personnes. Amen. Donc, c'est vraiment un gain que de servir et que d'avoir un ministère dans l'église. Et parce que c'est comme ça que les jeunes, par exemple, pourront grandir. Mm. C'est comme ça que les mamans même pourront affermir leur rôle. Mm. C'est comme ça que les adolescentes aussi pourront savoir, voici le chemin que je dois suivre. Et tout ça, c'est dans l'église qu'on l'apprend. Mm.
Mais puisqu'on parlait de leadership, là, c'est vrai que toutes les femmes ont de bonnes choses à tirer de l'église, hein, d'expérience. Mais puisqu'on parlait de leadership féminin, je pense que ceux qui sont encore réticents à cause de l'enseignement qu'ils ont reçu, à cause de l'expérience d'église qu'ils ont vécue, je pense qu'il faut vraiment se placer devant la face de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Et j'ai vu des hommes qui avaient des pasteurs, des enseignants dans les écoles bibliques qui avaient des positions très fermes, qui après ce temps de réflexion devant la face de Dieu ont vraiment reconsidéré leur position en toute honnêteté et même l'avouent, dire ben maintenant j'ai vraiment changé d'opinion et c'est pas parce que j'ai été gagnée par l'esprit du monde, c'est vraiment une révélation spirituelle. Et je pense que ceux qui sont récalcitrants ont tout intérêt à vraiment se mettre devant la face de Dieu parce que l'esprit de Dieu conduit dans toute la vérité.
Et honnêtement, le fruit est là. Le fruit est là. Moi, je peux le dire, je peux le témoigner. Je le vis, le fruit est là. Des âmes sont sauvées, le royaume de Dieu avance. Franchement, j'ai l'impression même que les femmes sont plus impliquées que les hommes. Et je dis, ce serait dommage, cher pasteur, de passer à côté de ça. Essayez de tester, vous verrez. Vous allez être bénis.
Satisfait ou remboursé.
Satisfaction ou remboursement garanti.
Non, mais sérieusement, on n'a rien à perdre.
On n'a rien à perdre.
Si on pense que les femmes ne sont pas capables ou quoi que ce soit, on n'a rien à perdre d'essayer et de voir ce qu'une femme peut faire avec, avec l'aide de Dieu. Amen. Et puis, comme tu l'as dit, toi, tes églises, les femmes sont vraiment actives. Et Yonggi Cho disait que c'est vraiment grâce aux femmes aussi, que son église a pris un essor considérable, des femmes qui priaient et tout, et il n'a pas l'air d'avoir un complexe, un quelconque complexe. Non, cet homme, c'est vraiment un pasteur hyper influent. Donc voilà, mesdames, ce n'est pas un obstacle d'être une femme en soi pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir aussi avoir une position d'influence, que ce soit, on a beaucoup parlé de l'église, mais ça peut être aussi dans le travail. Soyez fiers d'être une femme, manifestez la femme que vous êtes en Jésus. Amen. Et mettez à profit toutes ces qualités, tous ces dons, tous ces talents qu'il a mis en vous en tant que femme, en tant que mère, pour le servir, que ce soit à l'église ou dans votre travail. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.